La commande qui nous a été passée consiste à résumer un petit peu nos travaux de recherche, donc dans le cadre du master FFMS, et en adoptant la focale de l'explicitation, et notamment l'explicitation du comment. Donc pour situer notre propos, nous travaillons tous les deux dans la même école, donc l'école Molière située dans le quartier REP plus à Alençon. Sandra officie dans une classe de CP et de mon côté j'enseigne dans une classe de CE1. Donc on exerce en REP plus en cycle 2 déjà depuis quelques années et la difficulté scolaire est au centre de nos préoccupations quotidiennes et notamment la difficulté scolaire dans le domaine de la lecture. Donc nous nous sommes appuyé dans nos travaux de recherche, essentiellement sur les travaux de didactique et de sociodidactique de l'équipe ESCOL, qui pense que l'explicitation est au cœur de la lutte contre les inégalités scolaires. Beaucoup de nos élèves ne maîtrisent pas forcément les règles implicites du jeu scolaire, et les recherches nous ont amenés à questionner nos pratiques enseignantes, afin de savoir si nos pratiques étaient suffisamment explicites pour que nos élèves ne soient pas engagés dans des malentendus socio-cognitifs, mais aussi pour savoir si l'enseignement dispensé était suffisamment explicite pour ne laisser personne au bord du chemin. Donc là, c'est pour citer Roland Guagou. Nous avons aussi convoqué des recherches concernant l'autorégulation et la manière dont les élèves pouvaient réguler eux-mêmes leurs stratégies et leurs procédures, notamment du coup les travaux de Sylvie Seb et Roland Guagou, qui ont été nommés ce matin dans le cadre du travail à Cherbourg, je crois, à l'École des provinces. Donc nous sommes plutôt intéressés sur la version cycle 2, la version lectorino-lectorinette. Et donc nous nous sommes interrogés sur la manière de former des élèves autonomes, stratégiques et flexibles dans leur activité de lecture. Concernant les compétences, ah oui, si je clique pas, il va manquer des choses. Donc, concernant les compétences qui sont projetées au tableau, elles font consensus dans le monde de la recherche. Ce qui ne fait pas consensus, c'est la manière de les atteindre. Pour en revenir à l'explicitation, pour la présentation d'aujourd'hui, nous avons choisi de nous attarder essentiellement sur la manière dont l'enseignant peut agir pour amener l'élève à parler sur ses procédures et ses stratégies et sur les conséquences que ces recherches ont eues sur nos pratiques enseignantes. Pour cela, nous nous sommes appuyés aussi sur les travaux de Roland Guagou que l'on peut trouver sur le site de l'IFE, donc des savoirs utiles aux formateurs, et nous avons choisi deux entrées, la démarche proactive, donc hors la classe, la planification, et une démarche réactive dans la classe, la régulation. Donc là, on va vous présenter deux projets, un projet en CP autour des compétences de décodage et un projet en CE1 autour des compétences de narration et les compétences inférentielles.
D'accord. Donc voilà le premier projet, donc sur une situation d'enseignement-apprentissage en CP autour de l'identification de mots. Donc notre première préoccupation a été d'interroger la transformation de nos pratiques concernant la planification, c'est-à-dire toutes les transformations qui ont lieu en amont, sur un temps hors la classe. Donc quatre axes ont été révélateurs de ces transformations. Le premier concerne les outils de l'enseignant. Un exemple, donc sur l'identification de mots, le premier travail a été de réfléchir dans le cheminement pour identifier des mots, que ce soit en voie directe ou voie indirecte pour un enfant de CP, de rechercher quel processus cognitif était en jeu. Et il s'est trouvé, donc voilà un essai de, voilà, d'identification, et on remarque une forte prégnance des processus, notamment de catégorisation. Et alors, cette préoccupation a guidé le deuxième axe de travail, qui a été des choix didactiques. Puisque cette prise en compte des processus cognitifs qui étaient en jeu ne pouvait pas suffire. Il a fallu ensuite réfléchir à comment les travailler en situation de lecture avec des élèves. Donc, concernant ces choix didactiques, je prends un exemple pour essayer d'éclairer le propos. Donc, il s'agit d'un jeu. Donc, concernant les supports, le choix de supports résistants et de scénarios complexes a toujours guidé le travail. Et ici, le choix a été fait de transposer l'outil Catego à des situations de lecture en CP. Donc, le jeu, un jeu là parmi plusieurs, hein, en fait, il s'agit d'identifier les mots le plus rapidement possible et on gagne les cartes mots qui sont dans une catégorie donnée, qui appartiennent à une catégorie donnée. Donc le choix des mots qu'on va soumettre à la lecture des élèves, avec le nombre de catégories qui sont représentées, et puis aussi la nature des catégories. Là, sur les quatre catégories qui sont représentées, on voit bien que la rime en O ou l'attaque en P est beaucoup plus facile à identifier que les lettres muettes ou le nombre de syllabes. La deuxième difficulté pour l'élève, enfin le deuxième point qui va être assez résistant, c'est l'introduction de cette carte joker qui permet de remplacer n'importe quelle carte catégorie. Donc ça va demander à l'élève d'identifier toutes les catégories qui sont en jeu et de choisir celle qui est la plus représentée. Ça, c'est une tâche vraiment complexe pour des élèves de CP qui sont en difficulté par rapport à l'identification de mots. On travaille bien les processus de catégorisation en situation, en contexte de lecture. Et ce travail était plutôt intéressant puisqu'il permettait, avec cette complexité, de travailler ce besoin de flexibilité mentale nécessaire aux compétences de lecteur. Le troisième axe concernant les transformations des pratiques, il découle du précédent, concerne les choix pédagogiques. Sur la photo, on voit une situation, un exemple, donc un dispositif en atelier qui permet de former des groupes de besoins dont les interactions vont servir l'ensemble du groupe. C'est le choix qui a été fait là, ce n'est pas un choix constant dans la classe, en tous les cas pour cette situation, c'était le cas. Et puis un cadre ritualisé qui rassure l'élève, qui lui permet de se détacher d'éléments de forme pour se concentrer sur les contenus. Et enfin, dernier axe sur la transformation de nos pratiques dans les tâches de planification a concerné les outils de l'élève. Donc ça a été une grosse partie de la réflexion. Florian disait tout à l'heure, est-ce qu'on doit tout expliciter? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est utile? Est-ce qu'on ne va pas être un moment contre-productif? Finalement, ça s'est fait assez facilement au fil des séances. C'est un travail de plusieurs mois dans la classe et ça a toujours été fait avec les élèves. Donc un exemple d'outil, là pour le jeu en question, donc des pictogrammes donc, qui sont de plusieurs natures. Là on voit, donc ils ont été vraiment construits avec les élèves. Donc on voit ceux qui concernent vraiment les procédures et les stratégies utilisées. Donc je fais attention, je mémorise, je compare, je catégorise. Et puis une deuxième nature de pictogrammes qui concerne plutôt les buts de la tâche, les finalités de l'apprentissage, les étapes par lesquelles on passe. Est-ce qu'on est sur une phase d'entraînement? Est-ce qu'on est sur une phase de recherche, de découverte ou d'évaluation? Finalement, ces outils, leur utilité a été éclairée par un certain nombre d'entretiens d'explicitation qui ont été menés avec les élèves. On en a un extrait ici, où finalement l'élève arrive à me dire qu'il a besoin de regarder les images, donc les pictogrammes, pour se souvenir de ce qu'il doit faire pour réussir. Il dit, voilà, à quoi te servent les images? À ouvrir ma tête, à me rappeler comment je fais, sinon je n'y arrive pas. Donc, voilà pour les tâches de planification. Donc les transformations principales qui ont été opérées dans notre travail hors la classe, en amont des situations. Ce travail-là, il a eu des incidences aussi sur notre travail dans l'action. Donc tout ce qui concerne ce que Roland Guagou appelle la démarche réactive, donc qui concerne les régulations, toujours au service d'un enseignement explicite. Donc pour le travail qui a été mené sur des ateliers d'identification de mots en CP, donc j'ai comparé les interactions entre donc en jaune septembre 2017 et en bleu février 2018. Ces interactions entre l'enseignante et les élèves, elles sont rangées en quatre axes. Celles qui relèvent de l'action en haut, celles qui relèvent de la cognition, donc à droite, celles qui relèvent de la métacognition implicite en bas et de la métacognition explicite. Donc on voit bien l'évolution en quelques mois de la nature des interactions et de leur quantité. Donc celles qui relèvent de l'action, on voit bien qu'on est passé de 51% à 26% des interactions, donc une grande diminution. Concernant la cognition, il y a également une évolution en nombre, mais surtout une variation en qualité. En mois de février, la totalité de ces interactions est sous forme de questions qui visent à interroger les élèves pour les amener à trouver, valider, répondre à une difficulté ensemble. En ce qui concerne la métacognition implicite, donc on a également une évolution en nombre et également une précision lexicale concernant les processus cognitifs qui sont mobilisés. Et là encore, l'essentiel des interactions est sous forme de questions qui permettent aux élèves d'interagir et de se valider sans l'adulte. Et enfin, la métacognition explicite. Donc là, il y a eu une phase de prise en compte assez sérieuse de ma part, puisque au départ, quand il a fallu ranger ces interactions en septembre, on voit que je suis à zéro. Donc aucune de mes interventions ne concernait la métacognition explicite, alors que, comme le disait Florian tout à l'heure, le travail d'explicitation sur le REP plus d'Alençon est quelque chose d'engagé depuis assez longtemps. Et donc j'avais l'impression d'être plutôt dans une démarche d'explicitation avec mes élèves. Je suis passée de 0 à 25%, ce qui est pas mal. Mais voilà. Donc, finalement, cette évolution des interactions, elles nous permettent de... Enfin, elles font apparaître pour nous, dans nos transformations de pratique, plusieurs actions. D'abord, cibler la métacognition implicite a été déterminant. Ça a demandé de planifier les régulations et de s'auto-réguler. Hein, c'est le sens des flèches. Et puis, tout ça a permis, pour reprendre les termes utilisés par Pernou, d'entrer dans la logique de l'apprenant. Finalement, c'est un travail qui n'est pas simple du tout et qui nécessite vraiment une disponibilité intellectuelle. Et si on ne cible pas un certain type d'interaction et qu'on ne les planifie pas, je pense que l'autorégulation est beaucoup plus compliquée. Voilà, deuxième situation.
Bien, donc moi, à mon tour, je vais vous présenter le dispositif qui a été mis en œuvre en CE1. Donc, je rappelle, davantage sur les compétences narratives et inférentielles que sur les compétences de décodage, même si toutes les compétences sont travaillées de manière intégrative, c'est-à-dire tout ensemble et simultanément. Donc, dans le domaine de la planification, j'ai choisi les mêmes entrées que Sandra, à savoir les choix didactiques, les choix pédagogiques, les outils de l'enseignant et ceux de l'élève. Alors, je ne vais pas détailler les choix pédagogiques parce que ma classe fonctionne de la même façon que celle de Sandra, c'est-à-dire à la fois en atelier et en groupe de besoin. Je vais m'arrêter davantage sur les outils de l'enseignant dans un premier temps. Donc, de mon côté, je me suis appuyé, moi, sur les travaux de Michel Fabre concernant la compréhension en lecture et notamment sur son travail dans l'enfant et les fables. Il distingue quatre structures psychiques impliquées dans l'acte de compréhension. Donc la mémoire sensorielle, la mémoire de travail, la mémoire de contrôle et la mémoire à long terme. Ces instances interagissent constamment et dans le cadre moi, de mes recherches, je me suis plutôt intéressé à la mémoire de contrôle, celle sur et notamment sur la manière dont l'élève peut réguler ses stratégies et ses procédures pour comprendre un texte. Selon Michel Fabre, on doit agir sur cette mémoire de contrôle par une pédagogie du dialogue, de l'écoute, de la prise de rôle, et c'est une pédagogie qui ne supprime pas la personnalité du sujet, mais qui la soumet au texte. Concernant les choix didactiques, si le lien va bien fonctionner, donc il a fallu, dans un premier temps, définir un protocole assez précis, donc un protocole qui s'est échelonné sur plusieurs mois, et qui s'appuie sur un réseau d'albums et sur l'intrigue de récits complets. Donc le choix des albums, ils sont tantôt résistants, tantôt proliférants, tantôt réticents, pour reprendre les travaux de Catherine Tauvron, tous demandent une participation active du lecteur et une coopération textuelle, pour reprendre les termes d'Umberto Eco. Pour lui, le texte est une machine paresseuse qui demande au lecteur qui demande à être actualisé par le lecteur. Les différentes étapes. Donc la première partie est plutôt une partie évaluative en deux actes. Une partie pré-protocole, pardon, c'est dur à dire, et une partie post-protocole qui prend appui sur le même album, un texte de Rascal qui s'appelle Ami Ami. L'idée étant de voir l'évolution des interprétations entre le début et la fin du protocole et le différentiel entre un état initial et un état final. La deuxième phase est une phase d'observation, donc qui prend appui sur deux autres albums. Durant cette phase, ça m'a permis de voir quels étaient les processus mobilisés par mes élèves, mais ça m'a permis aussi de commencer à poser les jalons d'une posture de lecteur actif. Et enfin, la dernière partie est la partie d'expérimentation, qui prend appui sur un autre album de Rascal qui s'appelle Petit Lapin Rouge. L'idée étant d'analyser les régulations que j'ai pu opérer auprès de mes élèves pour les faire parler sur leur stratégie. Enfin, concernant les choix didactiques, je me suis appuyé sur un cadre théorique, le cadre théorique de la problématisation. L'idée étant effectivement, après la découverte du texte, d'aller avec les élèves vers un problème posé par le texte Pour en revenir au texte de John Classen qui s'appelle « Je veux mon chapeau », on voit sur la première illustration un face-à-face effectivement, entre le lapin et l'ours, j'allais dire le loup et l'ours. Et sur l'illustration suivante, l'ours tout seul qui a récupéré son chapeau. Mais finalement, où est passé le lapin ? Je ne veux pas de réponse. Ensuite, pour finir, je me suis intéressé donc aussi aux outils mis au service de l'élève, et notamment au service de l'explicitation. Donc je ne reviens pas sur les outils du pourquoi, parce que ça a été détaillé suffisamment sur l'intervention de Florian et Laurence, pardon. Et je me suis plutôt intéressé aux procédures qui concernent le comment. Donc, concernant le comment, ces pictogrammes utilisés permettent de faire du lien entre à la fois les différents scénarios et les différentes séances du même scénario. Les deux premiers concernent davantage la posture de l'élève. Donc, l'idée étant qu'on attend des élèves une posture de lecture active. Le troisième picto concerne davantage, arrive un petit peu plus tard dans le protocole et concerne davantage des éléments de réponse à trouver une fois que le problème a été posé. Si on revient au texte de tout à l'heure, où est passé le lapin, on va retourner dans le texte pour pouvoir effectivement trouver des éléments de réponse qui vont nous permettre de répondre à cette question. Et le quatrième picto nous permet met en œuvre davantage des processus cognitifs, donc processus d'inférence et processus de déduction. Si on reprend le texte de John Classen, donc début du livre où l'ours rencontre le lapin, tu n'aurais pas vu mon chapeau ?
Non, pourquoi tu me poses cette question ? Je ne l'ai pas vu. Je n'ai vu de chapeau nulle part. Jamais je ne volerai un chapeau. Arrête avec tes questions.
Bon, merci quand même. Un petit peu plus tard dans le livre, on retrouve l'illustration avec des traces de lutte. Donc on a quelques indications. Et encore plus loin dans le livre, l'écureuil arrive à la rencontre de l'ours. Excuse-moi, tu n'aurais pas vu un lapin coiffé d'un chapeau ?
Non, pourquoi tu me poses cette question ? Je ne l'ai pas vu. Je n'ai vu de lapin nulle part. Jamais je ne croquerai un lapin. Arrête avec tes questions.
Bon, merci quand même. Donc désolé pour ceux qui attendaient une fin un peu plus heureuse, mais l'ours a croqué le lapin. 5 minutes. C'est noté.
5 minutes ? D'accord.
Bien, donc pour poursuivre et pour partir sur le deuxième axe, l'idée de la démarche réactive, donc vraiment en live avec les élèves, je vais revenir sur les mêmes entrées que Sandra tout à l'heure, c'est-à-dire l'idée de l'autorégulation. Donc j'ai dans un premier temps mesuré un petit peu ma part d'intervention dans la séance et celle des élèves. On se rend compte que finalement les élèves interviennent plus souvent, à 65%, 35% pour moi, ça témoigne de deux choses. À la fois la part belle laissée aux élèves dans la possibilité de pouvoir s'expliquer et expliciter les procédures, mais aussi le côté interventionniste, c'est-à-dire qui était à la fois recherché afin d'agir sur les stratégies qu'ils utilisent. Dans un deuxième temps, on a aussi les modalités où on voit que majoritairement les modalités interrogatives afin d'accéder à leurs procédures ont été utilisées. Concernant les visées et les objectifs des régulations, je vous parlais tout à l'heure de la mémoire de contrôle qui était ciblée dans la recherche et après analyse, on s'est rendu compte que c'est celle qui avait été majoritairement ciblée aussi par les interventions. Concernant la planification, le scénario s'articule autour de 3 étapes. Une première étape qui concerne le dévoilement progressif de l'histoire, durant laquelle on demande aux élèves d'anticiper sur la suite de l'histoire, et notamment de s'appuyer sur le texte, donc pour cela de faire des retours au texte. La deuxième étape concerne davantage le problème posé par le livre, donc où est passé le lapin, et là on leur demande de se positionner à l'écrit ou à l'oral individuellement. Et la troisième étape est une étape plutôt collective où, à partir des propositions de chaque élève, on va essayer d'aller retourner dans le texte, chercher des éléments de réponse pour pouvoir, effectivement, on va dire, valider les justifications, les interprétations qui paraissaient correctes et puis invalider les autres. Et enfin, concernant l'entrée dans la logique de l'apprenant, pour reprendre Pernoud, vous avez ici un exemple d'échange entre... essentiellement une élève et moi, dans laquelle, effectivement, elle fait une proposition qui n'avait pas été soumise par la classe avant. Elle propose, dans l'autre livre Petit Lapin Rouge, que le petit chaperon engraisse le lapin pour pouvoir le manger ensuite. C'est une chose qui n'avait pas du tout été pensée par les autres élèves. Elle voit bien que je suis sceptique, je ne comprends pas bien là où elle veut en venir. Et puis, d'autres élèves montrent leur désaccord et Matt dit « Non, c'est pas possible, le petit chaperon ne peut pas manger le lapin. » Elle va jusqu'au bout de son idée et elle explique bien que le petit chaperon est gentil, mais c'est une ruse. C'est effectivement pour l'engraisser, pour pouvoir le manger ensuite. Donc, du coup, ça, son interprétation peut être validée. Donc, pour conclure, parce que nous n'avons plus que 2 minutes.
Donc, on voulait juste reprendre toutes les entrées qui ont été les nôtres pour présenter ces expérimentations. D'abord, concernant les tâches de planification, puisqu'on est sur les pratiques enseignantes transformées, en insistant particulièrement sur les choix didactiques avec la conception de scénarios et de choix de supports résistants et la recherche de complexité. Dans les choix pédagogiques, vraiment s'inscrire dans une démarche de résolution guidée par l'enseignant. Et puis, des outils de l'élève au service de l'explicitation, ça également nous a semblé important. Et puis, le deuxième axe a été d'analyser les transformations concernant les régulations. On est arrivé aux mêmes conclusions, hein, finalement, avec les mêmes axes de transformation. Donc, je ne les détaille pas puisqu'on a fini. Mais ce qui nous paraît essentiel, c'est qu'il y a une imbrication étroite entre ces deux éléments, que l'un ne va pas sans l'autre et ça fonctionne en système. Pour conclure, on voulait quand même citer Florian et son 4e palier de professionnalité. Juste pour redire que c'est la connaissance des processus et des mécanismes d'apprentissage de l'élève qui nous ont permis d'avoir des réponses didactiques aux moyens d'expliciter et un interventionnisme assumé. Voilà, que ça nous a aidé à y voir un peu plus clair pour inscrire les élèves dans vraiment une démarche de résolution guidée par l'enseignant. Voilà, ça a aussi transformé nos pratiques de formateurs, puisque nous sommes tous les deux PEMF, et que ça a modifié nos focales d'observation sur les situations de classe, notamment dans le cadre de visites de PES, par exemple. Nos grilles d'observation et nos comptes rendus en sont modifiés. Et puis, dans l'aide à la conception de situation également, on revient beaucoup plus à comment l'élève apprend, et on accompagne davantage sur l'identification des processus qui sont en jeu. Voilà, merci.
Une demi-minute.